En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Comme je suis agent de la fonction publique, j'ai appelé Préfonds Retraite au 3025.
Préparer sa retraite avec ce qu'on a à payer ?
Bah, tu sais, pour commencer, il suffit de mettre de côté 20 euros par mois et tu touches un revenu sûr et régulier à ta retraite.
Donc, j'appelle Préfonds Retraite au 3025.
Oui, en plus, c'est gratuit depuis un poste fixe.
RTL Matin,
Vincent Parisot.
Ce matin, François Hollande vous répond en direct sur RTL.
Oui, François Hollande, donc de retour dans ce studio. On vous attend au 32-10 pour lui poser vos questions. Monsieur Hollande, avant de prendre le premier auditeur, il y a aussi une question sur RTL.fr hein, qui est posée aux auditeurs, qui peuvent d'ailleurs voter jusqu'à 18h. On leur demande aujourd'hui si vous devez vous rapprocher plutôt de François Bayrou ou plutôt de Jean-Luc Mélenchon. Hein, voilà la question. À 12%, on nous dit François Bayrou, à 25%, Jean-Luc Mélenchon et à 46% ni de l'un ni de l'autre. Vous auriez voté quoi ?
Moi, je veux me rapprocher des électeurs. Des électeurs de Jean-Luc Mélenchon si ils veulent le changement, et je crois qu'ils le veulent, et des électeurs de François Bayrou, je crois qu'ils sont plus partagés. Donc je dois m'adresser à tous ceux qui veulent une victoire, celle que je peux représenter, c'est-à-dire pas simplement un rejet de Nicolas Sarkozy, mais également un projet pour la France, celui que j'ai présenté.
Alors, les auditeurs d'RTL vous interrogent maintenant, à commencer par Fabien, qui est à Saint-Chamond, c'est dans la Loire, bien sûr. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour Monsieur Patti, et bonjour Monsieur Hollande.
Voilà, bonjour Fabien. Jean-Michel est aussi dans le studio, bonjour. Donc c'est pas grave.
D'accord, ok, bonjour.
Allez-y.
Avant toute chose, vous parlez de Monsieur Mélenchon. Justement, j'aimerais avoir une première position. Pourquoi vous avez refusé à plusieurs reprises un débat avec Monsieur Mélenchon? Ça, c'est la première question. Mais ça, c'est pas tellement le sujet. Enfin, j'aimerais que vous me répondiez, mais c'est pas tellement le sujet. C'est surtout, voilà, vu la position que vous avez prise face à la finance, comme quoi vous n'êtes pas dangereux, je suis inquiet de la position. Je suis inquiet de la position que vous prenez par rapport à l'Europe d'une façon générale, et donc quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne et ce qui s'est passé au Portugal, qui étaient des régimes plutôt socialistes, social-démocrates, que vous représentez, moi je suis un peu inquiet pour l'avenir, quoi.
Ok, bah voilà, là, je ne sais pas s'il y a vraiment une question, mais on va essayer d'y répondre, peut-être, François Hollande.
Il n'y a peut-être pas une question, mais il y a une interprétation. Moi, ce que je pense, c'est que nous sommes capables de maîtriser la finance et que nous ne sommes pas soumis à un ordre qui viendrait de l'extérieur. À nous aussi de montrer des disciplines. Il y a une dette dont nous allons hériter, elle ne peut pas s'effacer d'un trait de plume. Ce serait trop simple. Le départ de Nicolas Sarkozy n'embête pas nécessairement tout ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Nous avons une continuité à assurer, hélas, et elle sera lourde. Donc je ne peux pas promettre ce que je ne serais pas capable de tenir. Sur la fatalité, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce que des pays, Grèce, Espagne, Italie, Portugal, sont dans une difficulté, voire même pour certains d'entre eux dans une tourmente, ça a été le cas pour la Grèce, que nous serions nous-mêmes tributaires des marchés. Nous avons les moyens de nous défendre. Et puis enfin, nous avons aussi, et je l'ai dit, pris des positions sur l'interdiction de produits financiers. Par exemple, ce contrat qui est né en Allemagne et qui laisse penser qu'il serait possible aujourd'hui de spéculer contre la dette française. Je demanderai aux autorités européennes de revenir sur ce type de produit. Et puis enfin, j'ai annoncé une renégociation du traité pour que la croissance soit une dimension de l'orientation de l'Europe et pas simplement une évocation, alors que les disciplines l'emporteraient sur tout le reste. Voilà, pour votre première question, moi je préfère débattre face à la droite que de diviser la gauche. La gauche, elle doit se rassembler pour être capable d'incarner l'espérance. Il n'y a pas de débat entre deux gauches. Il y a une gauche qui est capable de gouverner, de diriger la France.
Voilà, Fabien, on vous souhaite une bonne journée du côté de Saint-Chamond et on va à Bagneux, c'est en région parisienne, retrouver Brigitte. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Eh bien,
bonjour.
Écoute, François Hollande vous écoute.
Monsieur Hollande.
Bonjour Brigitte.
Bon, voilà, j'ai une question à vous poser. Je dois savoir si vous pensez réellement baisser les impôts des petites classes, pas des modestes, mais vraiment la petite classe. Comme je fais partie, moi je suis aide-soignante, je travaille au Conseil Général des Hauts-de-Seine et mon salaire ne bouge pas depuis plein d'années. Et si je voulais
combien, on peut vous demander, Brigitte, combien vous gagnez?
Je gagne à peine 1700 euros. Voilà. En faisant des week-ends et jours fériés, hein, parce que je travaille dans le social.
Brigitte, vous êtes donc dans la moyenne des rémunérations en France, hein, c'est à peu près 1600 euros. Et ouais. La moitié des Français gagnent plus, l'autre moitié gagne moins. Et donc vous êtes, vous, souvent victime de politiques fiscales qui s'acharnent sur votre catégorie. On l'a bien vu depuis 5 ans, la TVA c'est vous qui la payez, les impôts locaux c'est vous qui les acquittez. Et puis vous n'avez eu aucune baisse, vous, de votre impôt sur le revenu. Ces niches fiscales qui ont été créées depuis 5 ans ne vous ont pas bénéficié. Le bouclier fiscal ne vous a pas protégé. Vous n'étiez pas bénéficiaire de ce type de dispositif. Donc moi, ce que je veux faire à travers le rapprochement de la CSG de l'impôt sur le revenu, c'est qu'il y ait une plus grande progressivité. Et donc le plafonnement des niches fiscales, la création d'une tranche supérieure d'impôt sur le revenu au-delà de 150 000 euros par pas nous permettra de redistribuer davantage aux autres. Et donc faire en sorte que la politique fiscale soit plus juste. La réforme fiscale sera la première grande loi que nous ferons voter durant l'été.
Mais Brigitte voulait savoir si ces impôts vont baisser.
Oui, mais nous allons faire en sorte que d'abord, elle n'ait plus à payer la TVA au mois d'octobre. Enfin la TVA, le supplément de TVA qui a été décidé. Donc je peux vous faire déjà cette garantie. La hausse de 1,6 point de TVA sera purement et simplement supprimée. Donc vous n'aurez pas à la payer.
Voilà, bonne journée à Bagneux. Tiens, justement, la TVA, on va poursuivre sur ce sujet, François Hollande, avec Franck qui est à Nantes. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Monsieur Hollande.
Bonjour.
Voilà, moi tout simplement aujourd'hui, je fais partie avec un brin d'humour des gens qui appartiennent à la France, qui se lèvent tôt.
Vous êtes chef d'entreprise, hein Franck?
Je dirige une agence pour un grand groupe, oui, multinationale. Donc voilà, effectivement j'ai participé aux primaires et aux deux tours, je précise. Simplement aujourd'hui on entend de ci, de là, niche fiscale, TVA sociale. Moi il y a une chose qui m'interpelle. Ne pensez-vous pas, Monsieur Hollande, que rétablir la TVA à 33% sur les produits de luxe, puisque vous parliez justement à l'instant de TVA, et ceci dit sur les produits aussi bien français que transalpins ou Teuton, pour parler d'automobiles seulement ou de yachts ou autres, ne pensez-vous pas que ce serait une bonne piste? Et notamment, je pense que ceux qui ont les moyens de s'acheter ce genre de biens, je ne suis pas persuadé que élever la TVA de façon significative sur ces produits-là serait un élément et un facteur rédhibitoire à leur éventuel achat.
Réponse voilà, François Hollande.
Oui, merci Franck, parce que cette proposition m'avait déjà été adressée par plusieurs économistes. Et donc, vous venez de là d'en donner le sens. Ce que je ne sais pas encore, c'est s'il est possible de créer finalement un autre taux de TVA, un taux supérieur. Ça existait autrefois. Et donc, je ferai l'étude de savoir si, au plan européen, nous pouvons le faire. Mais je garde votre idée en tête.
Vous n'excluez pas d'augmenter?
Non, mais je ne veux pas ici faire d'annonce parce que je n'ai pas du tout avancé cette proposition.
Mais vous l'excluez visiblement pas.
Je
voulais étudier le dossier.
Je regarderai cette proposition et de savoir surtout sa validité. C'est-à-dire, est-ce que sur le plan européen, nous pouvons le faire? Parce que tous les taux ont été ramenés à un taux normal, donc celui 19,6. Qui était jusqu'à là de 19,6 et qui pourrait passer en cas de victoire de Nicolas Sarkozy à 21,2, et le taux réduit, qui est monté lui aussi de 5,5 à 7, je veillerai à ce que le livre d'ailleurs soit ramené à 5,5, ainsi que la billetterie pour les spectacles, et il y a aussi un taux très bas, exceptionnel pour un certain nombre de produits comme la presse. Mais je vais regarder donc, mais je ne peux pas du tout m'engager là-dessus, mais cette proposition a quand même du sens.
Voilà Franck, merci de l'avoir formulé ce matin sur RTL. Bonne journée à Nantes, on va à Vittel retrouver Christiane, qui est fonctionnaire territoriale. Christiane, et je crois qu'elle veut vous parler de la retraite, François Hollande. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour Monsieur Parizeau, bonjour Monsieur Hollande.
Bonjour Christiane.
Donc, je suis fonctionnaire territoriale et j'aimerais savoir si la retraite à 60 ans pour les personnes ayant cotisé dans 41 ans sera valable aussi dans la fonction publique. Parce que j'ai lu dans un magazine que cette mesure ne s'appliquerait pas dans la fonction publique. Donc, je voulais en savoir un peu plus.
Je ne sais pas quel est le magazine en question, mais ne l'achetez plus, puisque j'ai été tout à fait clair, c'est 41 ans, quel que soit le domaine d'activité.
D'accord, dans la fonction publique aussi.
Ben, bien sûr, il n'y a aucune raison de faire cette distinction.
Voilà.
D'accord.
Voilà, madame. Claire, réponse courte.
À bientôt, voilà. Madame.
Merci.
Puis on vous parlera du magazine plus tard. Hein.
D'accord, merci.
Au revoir. Véronique nous appelle de Clichy. Bonjour, Véronique.
Oui, bonjour, Monsieur Apathy. Bonjour, François Hollande.
Bonjour, Véronique.
Michel, ça tombe bien, il n'est pas parisien.
Donc, ma question concerne l'éducation. On m'a demandé d'être concise et
précise.
Allez-y,
oui, c'est le but du jeu. Oui.
Alors, vous envisagez, Monsieur Hollande, de recruter un très grand nombre d'enseignants. Bon, on s'accorde tous à ce qui, effectivement, cette exigence en matière de redressement, et le terme est faible, de l'école publique, hein, parce qu'il est évident qu'il manque cruellement d'enseignants, il manque également des assistantes sociales, du personnel de RAZ, enfin tous ces gens qui contribuent à valoriser les équipes éducatives dans les écoles primaires et les collèges.
C'est la question de la formation des enseignants que vous voulez poser, Véronique.
Alors, je voulais effectivement vous demander comment vous envisagiez de recruter ces enseignants et si vous envisagiez surtout de revoir la formation des enseignants.
Merci pour votre question très claire et qui donne le sens de ce que je veux faire. Oui, nous rétablirons la formation, sans doute différemment du passé, mais il n'est pas possible de recruter des enseignants, comme d'ailleurs tout personnel, mais pour les enseignants, il y a encore une obligation supplémentaire compte tenu de leur rôle. Il n'est pas possible de recruter des enseignants sans les former. Donc, sera rétablie la formation. Deuxièmement, plutôt que de les recruter à Bac plus 5, comme c'est le cas aujourd'hui, nous maintiendrons ce niveau de compétences, mais nous ferons aussi des pré-recrutements à Bac plus 3, et nous pourrons ainsi accompagner ces futurs enseignants, justement dans une formation, une qualification, et aussi la fin de leurs études. Donc, oui à la formation, parce qu'elle est indispensable. Vous avez eu raison aussi, madame, de dire qu'il n'y aura pas que des recrutements d'enseignants, mais aussi d'assistantes sociales, de conseillers d'orientation, de surveillants, d'infirmières scolaires, de médecins scolaires. C'est toute l'éducation au sens le plus large du terme qui doit être réussi pour l'avenir de nos enfants, mais aussi de notre pays.
Voilà, Véronique, pour la réponse de François Hollande à votre question. Bonne journée à Clichy. Je voudrais qu'on termine avec Catherine, hein, qui est retraitée, près d'Angers. Je crois que la question de Catherine, d'ailleurs, va un petit peu au-delà de votre programme et de votre personne. Bonjour, Catherine.
Bonjour, messieurs. Voilà, monsieur, voilà, durant votre campagne présidentielle, votre compagne a été souvent présente. Quel rôle pensez-vous lui donner si vous êtes élu président ?
Le rôle que une compagne doit avoir lorsque son conjoint est président de la République, c'est-à-dire une présence, mais qui n'est pas une fonction officielle.
D'accord.
Les Français vont faire un choix de président,
oui,
pas un choix de famille.
J'étais étonnée de l'avoir.
Même si Valérie jouera pleinement le rôle que chaque conjoint de président a pu mener depuis l'histoire de la Ve République, dans une société qui évolue. Mais je vous demande d'abord de juger non pas simplement un projet, une personne, mais également une volonté. Moi, je veux que la présidence de la République change. Je ne veux plus qu'il y ait autant de protocoles, autant de fastes, autant de dépenses parfois inutiles. J'avais dit que je voulais être un candidat normal, c'est pour être aussi un président normal. Un président normal a aussi une compagne, et cette compagne jouera le rôle qui doit être le sien.
Voilà, merci Catherine, et merci à vous tous d'avoir fait le 32-10. Merci à vous François Hollande d'avoir répondu aux auditeurs d'RTL.
Non, c'était un plaisir.